pour justement vivre, il y a cet aspect, on vit à la fois dans une société qui est de plus en plus numérique, etc. Et pourtant, on a besoin de contacts très directs. Et je pense que ces réseaux d'alumni aident parce qu'ils créent des opportunités de rencontres, mais aussi ensuite de projets communs.
Rencontre at Fond d'études, un podcast de la Fondation Suisse d'études. Conversation inspirante avec le réseau de la Fondation.
Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de la Fondation Suisse d'études. Je m'appelle Sarah Beyler et je travaille en tant que collaboratrice scientifique pour le bureau de la Fondation. Une de mes tâches est de soutenir la commission pour la formation de la Fondation. Et c'est dans ce cadre que j'ai le plaisir de travailler avec mon invité du jour, le professeur Pascal Pichonat. Bonjour Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci de l'invitation et c'est bien sûr un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je me réjouis d'échanger quelques idées avec vous.
J'aimerais vous présenter mon invité. C'est une biographie sélective. Pascal Pichonat est professeur ordinaire à l'Université de Fribourg et titulaire de la chaire de droit privé et de droit romain. Son parcours est jalonné de nombreux séjours de recherche et d'enseignement à l'étranger, ainsi que d'engagements multiples, notamment pendant 12 ans pour la Commission fédérale de consommation, au sein de l'Institut européen du droit, le European Law Institute, dont il est le président depuis 2021. Également comme arbitre international en droit commercial ou pour le tribunal arbitral du sport en tant que membre du comité éditorial de nombreuses revues scientifiques et de comités scientifiques. Ou encore en tant que président de l'association des alumni de la faculté de droit de l'université de Fribourg. Le professeur Pichonat est toutefois un professeur à 100% qui enseigne aux étudiants en droit de bachelor, première et deuxième année, et aux étudiants de master et de doctorat.
J'allais dire, n'en jetez plus. Évidemment, ce n'est pas le nombre de lignes dans le curriculum qui est importante, mais bien ce qu'on essaie de faire au quotidien, dans les interactions avec les étudiantes et étudiants, avec les professionnels, avocats, juges, et bien sûr avec les collègues au niveau national et international.
Ça reste un agenda très chargé, avec beaucoup d'engagement dans divers domaines, dans la recherche, l'enseignement, au sein de la société. Comment vous faites? Vos journées sont plus longues que 12 heures?
Évidemment qu'elles sont plus longues que 12 heures. Non, je plaisante. Elles sont organisées, c'est-à-dire que j'essaye effectivement d'avoir un agenda qui soit bien organisé, même si parfois il y a des conflits entre différents rendez-vous. Mais si on planifie les choses, on arrive à faire de plus en plus de choses. Et l'autre aspect qui me paraît important aussi, on a de plus en plus de synergies. Et donc ça permet aussi d'être plus efficace et d'être sur plusieurs fronts à la fois, même si je pense que on peut certes être sur plusieurs fronts à la fois, mais quand on est sur un front, il faut s'y investir totalement et puis prendre le temps ensuite pour s'investir sur un autre aspect, sur un autre front.
Et rester flexible pour pouvoir improviser quand les agendas collisionnent, je suppose.
Tout à fait, tout à fait.
En préparant cette interview, je me suis demandé, est-ce que cet enthousiasme ou cet intérêt de faire plein de choses différentes, de trouver des synergies, d'être aussi ouvert, parce que c'est comme ça que je vous ressens, c'est être quelqu'un de très ouvert, c'est quelque chose que vous avez toujours eu en vous ou c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps?
Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Mes parents étaient probablement des gens aussi ouverts sur plein d'activités et ça, forcément, à travers l'éducation, on le perçoit aussi. Mais je pense que le fait, parce que vous ne l'avez pas mentionné, mais je joue de la musique aussi, je joue de la clarinette à la Landwehr de Fribourg actuellement. Ça fait 40 ans que j'y joue d'ailleurs. Et c'est un instrument qui est lui aussi très divers. J'ai fait du jazz, j'ai fait de la musique folklorique, j'ai fait de la musique classique et je joue encore dans un ensemble d'harmonie d'excellence. Ça, c'est donc là aussi une diversité. J'ai commencé très tôt à jouer d'un instrument. Donc je pense que à travers la musique, et puis après on développe des intérêts divers, puis on se rend compte que c'est intéressant de faire des choses très diverses. Et en particulier, même avec la musique, j'ai pas mal voyagé à l'étranger. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même de rencontrer d'autres cultures, d'autres types de personnes.
Mm-hmm. Étant fribourgeoise, je sais parfaitement qu'est-ce que la Landwehr est. Pas non plus un petit ensemble que les gens ne connaissent pas, donc quand même un certain niveau, je dirais.
Oui, c'est vrai que c'est un orchestre d'harmonie de niveau excellence. On a 2 répétitions par semaine, en moyenne. Et par exemple, on a joué au Carnegie Hall de New York, au Kennedy Center, au Sydney Opera House ou encore au Teatro Colón de Buenos Aires. Donc, c'est véritablement un ensemble de haut niveau. On n'y entre pas si facilement. Ça devient plus difficile d'y rester quand on vieillit parce que la moyenne d'âge est de 34 ans. Donc là aussi, avec l'âge, on se rend compte que ça permet en tout cas d'avoir un contact différent avec d'autres types de musiciens. C'est ce qui est passionnant.
Oui, et je crois que la Landwehr a aussi un ressort jeunesse. Il me semble qu'il y a la jeunesse.
Oui, tout à fait. Il y a la jeune garde de la Landwehr qui a aussi un excellent niveau et qui est d'ailleurs un bon moyen d'apporter à l'ensemble principal des jeunes très motivés qui sont très enthousiastes, évidemment.
En parlant de jeunes motivés, je le disais avant dans l'introduction, vous êtes aussi très très engagé au sein de la formation des jeunes, donc pas seulement je dirais au niveau d'étudiantes et d'étudiants plus avancés, mais aussi vraiment les premières années d'études quand les gens ne sont peut-être pas encore tout à fait convaincus de leur choix d'études. Comment vous gardez ce moyen d'enthousiasmer les jeunes pour le droit?
Je pense que le fait d'enseigner le droit me donne un avantage parce que les étudiants ou les gens même dans la rue ont l'impression que le droit c'est quelque chose de barbant, de préétabli, de peu intéressant. Et notamment lorsqu'on fait les journées portes ouvertes pour les collégiennes et collégiens, eh bien, on essaie de leur montrer que, voilà, c'est tout à fait différent, c'est passionnant, c'est surprenant. Et il y a quelques années de cela, avec la personne qui est actuellement le doyen de la faculté de droit, on avait décidé de faire un procès fictif. Et j'avais dit, mais alors faisons un procès des 3 petits cochons qui se plaignent des défauts de construction des différentes villas. Et on s'est pris au jeu et on l'a fait plusieurs années. Et évidemment, les collégiens ont adoré, d'une part, de voir des professeurs qui prennent la peine de prendre un peu de recul sur ce qu'ils font avec un œil souriant, bien sûr. Et puis aussi de leur dire, ben voyez, on peut s'amuser avec plein de choses et c'est passionnant. Et je pense que ça, c'est intéressant. C'est de faire ce qu'on fait avec sérieux, mais de pas trop se prendre au sérieux non plus. Et ça permet de, comme vous le disiez, d'avoir peut-être de l'ouverture sur d'autres perspectives.
Cette ouverture, vous le disiez aussi avant, dans le cadre de vos expériences musicales, aussi dans le cadre de votre recherche ou dans l'enseignement, vous effectuez régulièrement des séjours à l'étranger, aussi dans le cadre de votre engagement pour l'Institut européen du droit, le ELI. Qu'est-ce que ces expériences à l'étranger vous amènent pour votre recherche et votre quotidien au sein de la faculté ?
Je pense que c'est toujours la question d'un dialogue. Un dialogue entre le national, l'international, entre le passé, le présent et le futur. J'enseigne à la fois le droit romain, c'est évidemment quelque chose de très historique, et le droit comparé et moderne. Et je donne des cours aux juges européens en matière, par exemple, de justice prédictive et d'intelligence artificielle. On pourrait se dire, non, mais comment, il est prof de droit romain aussi et il fait de l'intelligence artificielle. Enfin, il fait. Il enseigne des éléments liés à l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est justement ça qui est intéressant. C'est de dépasser les barrières convenues, c'est d'avoir un dialogue au-delà des limites pour finalement découvrir de nouveaux chemins. Et c'est dans cet engagement constant aussi avec, effectivement, comme vous le disiez, les États membres ou la Commission européenne que l'on peut découvrir de nouvelles idées. Juste pour prendre un exemple, j'avais une discussion sur la question de la responsabilité pour l'intelligence artificielle avec un représentant haut placé de la Commission européenne. Et à un moment donné, je lui disais, mais finalement, il y a, pour l'intelligence artificielle, il y a l'autonomie et l'indépendance. L'intelligence artificielle, ses algorithmes ont l'aptitude de fonctionner de manière autonome, mais ne sont pas indépendants. Et ça me fait penser aux esclaves à Rome, qui géraient de manière autonome des échoppes pour leur maître, ou aux fils de famille d'ailleurs aussi, c'est pas lié à l'esclavage, c'est lié à un certain statut, qui agissaient de manière autonome, mais qui en même temps n'étaient pas indépendants. Et ça permet de venir avec peut-être d'autres idées. Je suis pas en train de dire qu'il faut régler le problème de la responsabilité de l'intelligence artificielle en lien avec ce qui se faisait à Rome pour les fils de famille, mais ça ouvre des perspectives auxquelles on pense peut-être pas de manière immédiate. Et c'est ça qui est fascinant finalement.
Et c'est sûrement un type d'exemple que vous amenez à vos étudiants de première année pour un peu leur montrer comment ça, on peut amener ça dans l'actualité des choses.
Vous avez tout à fait raison. Un étudiant de première année commence à Fribourg le lundi matin avec un cours qui s'appelle « Droit romain ». Et je leur dis toujours, voilà, vous vouliez faire du droit et on commence par vous dire, bon, alors commençons par du droit romain. Alors il faut effectivement trouver un moyen d'accrocher, de leur dire, voilà, pourquoi c'est intéressant, avec des exemples concrets comme celui que je viens de vous donner, mais il y en a d'autres, évidemment. Et ça marche, en fait. Je crois que les étudiants se prennent au jeu. Alors, je ne vais pas dire qu'ils veulent tous devenir des spécialistes de droit romain, ce n'est pas l'idée, mais ils voient l'intérêt de la réflexion historique sur ce qui se passe aujourd'hui, et ça peut évidemment se transposer dans d'autres domaines.
Je pense que ça démontre aussi un certain talent pédagogique et didactique d'amener ce genre de choses un lundi matin, quand les gens sont encore un peu fatigués le week-end.
Il faut mettre beaucoup d'énergie, c'est vrai.
Oui, j'imagine. Durant votre carrière et le fait d'avoir eu autant d'expérience au sein de la communauté suisse, mais aussi internationale, forcément ça crée un réseau incroyable au niveau de la recherche, mais aussi sûrement au niveau culturel, dans d'autres domaines. Une autre chose qui nous relie, c'est que les deux, nous sommes engagés dans un réseau d'alumni de nos universités respectives. Et mon impression, c'est que le mot « réseautage » souffre un peu d'une image négative. Peut-être un peu plus ou moins, suivant les domaines où on se trouve. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait formuler plus positivement, ou bien peut-être un peu casser cette image ?
C'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Le mot « réseautage » peut donner l'impression que c'est orienté pour son propre intérêt, etc. Alors que c'est plutôt de permettre à des opportunités de naître. Et en fait, à travers les rencontres que l'on peut faire dans des réseaux d'alumni, on développe des idées pour la pratique. J'entends les praticiens se rencontrent et tout d'un coup, ils se disent « mais oui, on pourrait faire quelque chose ensemble ». Ils sont pas forcément venus en disant « je veux venir à cette séance d'alumni pour repartir avec un carnet d'adresses rempli, etc. » Mais de par la discussion, de par la découverte d'intérêts communs, eh bien, ça crée des choses. Et je pense que notre société a besoin de ces contacts plus étroits pour justement vivre. Il y a cet aspect, on vit à la fois dans une société qui est de plus en plus numérique, etc. Et pourtant, on a besoin de contacts très directs. Et je pense que ces réseaux d'alumni aident, parce qu'il crée des opportunités de rencontres, mais aussi ensuite de projets communs.
Mmh, tout à fait. Je viens des sciences naturelles, donc et moi j'ai fait l'expérience que le principe de réseautage, la prise de conscience que ça peut être important, que ça peut amener à des nouvelles choses, en tout cas pour la biologie, ça vient plutôt un peu tard, quand les gens commencent vraiment à faire de la recherche. Et moi, c'est peut-être un peu cliché, mais j'ai l'impression que dans le droit, mais aussi dans tout ce qui est économie, ce principe de réseautage a une plus grande tradition et un peu plus accepté ou plus vécu. Est-ce que c'est juste une idée ou est-ce que c'est vraiment comme ça?
Je pense que ça tient d'abord à la matière. Si on fait des études de droit, pour parler des étudiantes et des étudiants, on s'inscrit dans une société. On s'intéresse au droit parce qu'on s'intéresse à la société, au quotidien, quelles sont ses forces, ses faiblesses, etc. Et donc forcément que on s'intéresse aux liens entre les gens. Et on veut aussi, évidemment, développer ces liens. Donc, il y a quand même une certaine propension, une certaine habitude à se mettre en réseau, peut-être plus que en sciences dures, où on se dit, ben voilà, j'ai mes éprouvettes, et puis je vais travailler sur cet aspect ou tel autre en chimie ou en biologie. Cela dit, on est aussi dans une société où, et ça c'est peut-être l'autre aspect, où on a l'impression aujourd'hui, en tout cas j'ai l'impression que les jeunes se disent, si je veux avoir une chance de réussir dans la vie, il faut que j'ai un grand nombre de réseaux. Et peut-être que chez les étudiants en économie ou en droit, cette idée de réussir dans la vie est plus forte que dans d'autres facultés. J'ai tendance à dire aux étudiants qu'on ne sait pas si on va réussir dans la vie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, réussir dans la vie, premier point. Mais aussi, il faut surtout être ouvert aux opportunités. Et les opportunités, c'est vrai qu'on peut les obtenir peut-être à travers des réseaux, mais c'est aussi des hasards, de rencontres, ce qu'on n'a pas prévu. Et si on est trop orienté résultat, eh bien, on va peut-être passer à côté d'opportunités très intéressantes, simplement parce que on n'est pas suffisamment ouvert sur ce qui peut se passer autour de nous.
Mais je pense qu'il y a aussi un certain changement maintenant au niveau des mentalités, au niveau des jeunes étudiantes et étudiants, peut-être aussi au niveau des sciences naturelles, que les gens sont conscients que même s'ils commencent des études dans un certain domaine, qui finiront peut-être pas par travailler là où ils sont, une carrière dans le monde académique, il n'y a pas de la place pour tout le monde, et que cette conscience qu'il faut être ouvert à d'autres choses, et puis qu'on commence à chercher un peu le réseau pour avoir d'autres idées. Je pense que là, vous et moi, on est en train de faire un travail de fond, qu'on espère que ça portera ses fruits dans les prochaines années.
Tout à fait. Pensez simplement aux mathématiciens. On peut se dire, mais à quoi ça sert d'étudier les mathématiques? Non, je plaisante, mais c'est vrai. En matière bancaire, aujourd'hui, les produits dérivés, tout ça, sont gérés par des mathématiciens, parce que c'est à peu près les seuls qui comprennent ce qui se passe.
Donc, c'est un appel à quand même étudier tout ce qui nous fait plaisir et puis d'être resté ouvert, parce que je suis convaincue qu'avec la bonne passion pour les choses et l'ouverture d'esprit pour de nouveaux projets, on trouve une voie qui est peut-être pas forcément celle qu'on imaginait au début.
Tout à fait, tout à fait.
Pour reprendre l'aspect engagement, je reviens un peu à la Fondation Suisse d'études. On a parlé de la formation, on a parlé de l'engagement. Spécifiquement pour la Fondation Suisse d'études, vous êtes membre de la commission pour la formation depuis 10 années, mentor depuis 17 années et co-directeur de deux académies d'été, donc des académies, donc c'est une semaine où une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants travaillent une thématique de façon un peu plus approfondie. Quelle est votre expérience de ce réseau? Quelle est la valeur de ce réseau-là?
Bon, moi, je trouve que c'est juste incroyable ce qui se passe avec la Fondation Suisse d'études, dans la mesure où on a des étudiantes et des étudiants de domaines très divers qui se mettent à parler ensemble de mêmes problèmes, de mêmes questions, avec des regards multiples. Et c'est juste passionnant. Moi, je dois dire que je me suis même pas rendu compte que ça faisait 17 ans que j'étais mentor. Mais dans mon groupe d'étudiants, eh bien, il y a un médecin spécialiste ou qui entend devenir un spécialiste d'oncologie. De l'autre côté, on a une philosophe et on a des étudiants en droit, en mathématiques aussi. Et quand on discute une soirée, même sans avoir un thème spécifique, on se rend compte que c'est juste passionnant. Et rien que pour ça, je suis très heureux de pouvoir être membre de la Fondation Suisse d'études. Mais je pense aussi que l'intérêt est dans cette prise de conscience d'une partie de cette jeunesse qu'elle a un rôle à jouer et que pour pouvoir jouer son rôle, elle doit être, comme vous le disiez avant, ouverte, mais aussi engagée. Engagée dans la société et puis engagée pour les valeurs qu'elle entend défendre. Et je pense qu'à travers ces réunions, par exemple, ces académies d'été où pendant une semaine, les gens apprennent à se connaître, et bien sûr, travaillent sur une thématique spécifique, mais apprennent à se connaître et peuvent ensuite peut-être créer, on parlait de réseautage, créer un réseau, une compréhension pour peut-être résoudre effectivement des problèmes futurs de manière plus efficace que les personnes en place actuellement.
Ou créer de nouveaux projets et ce genre de choses. Ce genre de choses naissent souvent lors des discussions, lors des pauses ou bien lors d'une soirée, une fois en dehors des cours, je dirais.
Tous les chercheurs le savent, je pense. Les bonnes idées se trouvent quand on n'est pas à sa table de travail, mais on est peut-être en train de marcher ou courir dans la forêt et tout d'un coup, on voit ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut écrire. C'est parce que le cerveau fonctionne comme ça aussi.
Tout à fait. Ça fait donc pas mal d'années que vous vous engagez au sein de la Fondation. Est-ce qu'il y a peut-être un souvenir ou deux qui vous ont marqué ces dernières années?
Oui, il y en aurait beaucoup, évidemment, mais c'est difficile de choisir. Mais je dirais que peut-être quand j'ai organisé l'Académie d'été sur la globalisation, j'avais trouvé intéressant d'être une première partie de la semaine à Zurich, rencontrer des gens du BS par exemple et d'autres grandes multinationales, et puis de me retrouver dans la deuxième partie de la semaine à Gruyère. Et là, il y avait évidemment aussi un aspect international, même dans une petite région comme la Gruyère, fantastique, hein, que j'encourage tout le monde à aller visiter. Mais il y avait vraiment de l'internationalité. Alors, il y avait un choc et je voyais que certains étudiants ou étudiantes qui venaient notamment de Zurich disaient « Bon, c'est joli, mais bon, qu'est-ce qu'on va aller faire sur la globalisierung et globalisation à Gruyère ?» Et finalement, en faisant des visites d'entreprises, en examinant différentes choses, ils se sont rendus compte que voilà, il y a de la globalisation partout. Donc, c'était vraiment intéressant d'amener ces étudiants-là. Et à la fin de cette académie d'été, on a eu une excursion. On est monté à pied au sommet du Molaison, hein, comme tout bon gruyérien, il faut aller au sommet du Molaison à pied.
À pied.
À pied,
pas
bien
avec
sûr.
Avec le téléphérique.
Non, c'est 3h30 de marche à peu près. Il y avait du brouillard et certains avaient un peu de peine à monter quand même. Et au bout d'un moment, ils disaient « Ah, mais professeur, on arrive bientôt au bout. » Je disais « Oui, oui, après cette colline. » Après cette colline, il y en avait une autre. Hein. C'est un peu comme dans la vie, hein. Une colline après l'autre. Et puis, ils disaient « Mais en haut, il fait beau parce qu'ici, on est dans le brouillard. » Je disais « Oui, oui, en haut, vous verrez, ça va être super. » Et en haut, il y avait le brouillard. Et malgré tout, ils ont adoré cette sortie parce que, voilà, il a fallu aller au-delà de certaines limites. Et je pense que c'était un bon exemple de ce qu'on peut faire, à savoir se dépasser soi-même et finalement se rendre compte qu'on a un plaisir à faire cela au quotidien.
Pour clôturer cet échange, peut-être une question un peu plus philosophique. S'engager, à mon avis, c'est redonner, c'est faire profiter les autres de son expertise ou bien aussi simplement de son temps. Et je trouve que dans une société toujours plus individualiste, mais aussi où les gens ont toujours, semble-t-il, avoir toujours moins de temps, comment garder cette tradition de donner de son temps, s'engager dans une société ou un petit projet?
Je pense que le seul moyen de maintenir cette tradition, c'est par l'exemple. Parce que lorsqu'on donne son temps ou lorsqu'on donne ce qu'on a pu recevoir soi-même, on se rend compte qu'on reçoit encore plus que ce qu'on donne. Alors, j'allais dire, si je donne de mon temps, je reçois encore plus de temps, peut-être même, ce qui permet peut-être de faire plus de choses. Mais c'est vrai que on en ressort toujours plus enrichi que ce qu'on pensait au départ. Et toute personne qui a fait cette expérience ne peut plus se passer, finalement, de cette expérience et de dire il faut donner son temps, il faut prendre son temps pour les autres parce que ça permet de recevoir tellement plus que ça vaut vraiment la peine.
Je trouve que c'est une très belle conclusion. Merci, Pascal, d'être un tel exemple. Et puis, on vous souhaite tout de bon pour trouver le temps pour tous ces engagements. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et merci Pascal pour votre temps et votre engagement.
Merci bien, merci, c'était un plaisir.
Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et d'avoir pris part à cette rencontre. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à nous faire part de votre feedback ou idées par email via info@studienstiftung.ch. Merci et à bientôt.
Rencontre@fondetudes. Un podcast de la Fondation Suisse d'Études.